Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Franck Berthaud.
Bonjour, enchanté.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
C'est un plaisir.
Alors racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
Comment et pourquoi je suis devenu avocat? Alors, je pourrais pas vous dire que c'est une vocation, que j'y pense depuis ma plus petite enfance, je vous mentirais. En fait, j'ai commencé par faire des études de langues étrangères appliquées. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas forcément le meilleur des choix à la sortie du bac.
Pourquoi?
Oui. En fait, je ne savais pas du tout que faire. Le droit, l'avocat, c'est franchement, non, c'est pas ce à quoi je pensais lorsque j'étais au lycée. J'étais plus intéressé par le sport. J'étais plutôt bon élève, en toute modestie, ça marchait plutôt bien. Mais alors, savoir quel était mon avenir, quel serait mon avenir professionnel, là, c'était vraiment assez mystérieux pour moi. Les langues, si, les langues me plaisaient. Mais alors, quand à en faire un métier, puis langues étrangères appliquées, fac de lettres, je sais pas. Mais si, je pense aussi peut-être que je me suis retrouvé en réalité à Montpellier, car j'étais dans le sud de la France. À l'époque, et la liberté, la vie d'étudiant, je pense que ça peut être aussi cela qui a expliqué que ma première année de fac n'a pas été une réussite au-delà des études en elles-mêmes. Mais il y a quand même un rapport avec le droit, puisque c'est là que il y avait un cours de droit en option, et puis, j'ai eu une attirance, et c'est suite à cette première année qui n'avait pas été brillante, j'ai même pas passé les examens au demeurant, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai un peu culpabilisé quand même vis-à-vis de mes parents qui, bien évidemment, me finançaient mes études, etc. Et là, j'ai dit quand même, faut que tu fasses quelque chose. Et puis bon, j'avais ce souvenir de ce cours de droit qui m'avait plutôt plu. Et me voilà parti en fac de droit. Voilà ma première rencontre avec le droit, donc était par la fac de lettres. Vous voyez, c'est pas très habituel.
Et arrivé en fac de droit, il se trouve que ça n'a pas été juste une petite curiosité poussée et ça vous a plu?
Oh, franchement, les deux premières années, là aussi, j'exagérerais en vous disant que vraiment, ça m'a plu. Non, ça a commencé vraiment à me plaire à partir de la troisième année. C'est là où j'ai vraiment vu... Puis les deux premières années, ma foi, j'y étais. Et comme je vous dis que la première année, quand même, enfin, après une première année,
vous
ne rien
pris
faire...
Vous aviez votre année sabbatique.
Oui,
ouais.
Oui, l'année sabbatique avait été prise. Et là, je me suis dit quand même, il faut t'y mettre. Et t'as plus tellement le choix. Enfin bref, j'y étais. Puis je m'y suis tenu. Ça a commencé à partir de la licence où là, j'ai senti quelque chose. Je dois dire que j'ai quand même eu la chance, à la fac de Montpellier, à cette époque, encore aujourd'hui, mais je parle de la mienne, on avait quand même une bande de profs, là, c'était des sommités, ce qu'on appelait la doctrine. Les plus jeunes, ça vous causera peut-être pas tant, mais Michel Cabriac, Jean-Baptiste Seub, Jean-Marc Mousseron, Didier Ferrier, Bernard Tessier, des gens qui nous ont marqués, qui m'ont marqué. Donc ça a commencé en licence, et puis le vrai virage, c'est maîtrise, master 1 aujourd'hui, où là, là, le droit de l'entreprise, pour moi, ma matière de prédilection, le droit de la distribution, le droit de la concurrence, c'est là où ça a vraiment commencé. Et puis derrière, il y a eu le master 2, moi j'ai fait le DJCE à Montpellier, et là, j'ai vraiment commencé à sentir la passion pour le droit, en fait, voilà, ce que j'ai toujours, d'ailleurs.
Vous avez ou vous aviez des... Enfin, maintenant, vous en avez, c'est certain, mais à cette époque, vous aviez des affinités particulières avec le monde économique, le monde de l'entreprise. C'est des choses qui vous parlaient?
Oui. Plus d'ailleurs que le droit, je ne suis pas du tout issu d'une famille de juristes, plus d'une famille de commerçants, dans la vie des affaires. Donc j'étais effectivement peut-être plus sensible à cela, d'où l'attrait pour la matière effectivement du droit commercial d'une façon générale, et puis après le droit économique d'une façon plus particulière, oui, certainement.
Ouais. Et donc CRFPA, enfin, ou son équivalent de l'époque.
Eh bien, pour vous dire, là aussi, quand même, je suis pas quelqu'un d'extrêmement brillant à ce niveau-là, parce que je ne l'ai pas passé.
Ah oui?
Je ne l'ai pas passé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était encore à l'époque où il y avait deux professions. Il y avait les conseils juridiques et les avocats. J'ai un certain âge, quand même. Et moi, sortant, en fait, c'était un 2SS à l'époque, Master 2 aujourd'hui. En fait, je suis tout de suite entré dans la vie professionnelle. J'ai eu la chance de rejoindre un beau cabinet qui est Baker McKenzie. Cabinet américain, mais à l'époque, donc, comme conseil juridique. Et puis, il y a eu la fusion en 1er janvier 1992. Donc, moi, je suis rentré, j'ai commencé à travailler en septembre 1988. Et puis, 3 ans et quelques mois après, je suis devenu avocat. Voilà, certains me diront que ce n'est pas très glorieux, mais voilà, c'est
non,
comme ça.
Non, mais vous n'êtes pas le seul hein, dans le podcast à être un ancien conseiller juridique.
C'est... Alors, excusez-moi, je vous coupe. J'ai quand même peut-être une particularité. C'est peut-être que je suis un de ceux dont la carrière a été la plus courte de conseiller juridique, puisqu'il fallait faire trois ans de stage, enfin donc d'expérience professionnelle dans un cabinet, pour pouvoir avoir le titre de conseiller juridique. Et donc, le temps de faire le. Donc, moi, j'ai débuté en septembre 88. Ça nous amenait en septembre 91. Le temps de faire les papiers, etc., le dossier. J'ai été inscrit, le 10 décembre 1991 et le 1er janvier 1992, j'étais avocat. Voilà. Donc ma carrière de conseiller a été courte.
Effectivement, c'est compétitif.
Effectivement.
Est-ce que c'est une fusion que vous avez subie ? Enfin, est-ce que vous aviez une opinion quelconque sur cette fusion à l'époque ?
Ah non, je ne l'ai pas du tout subie. C'est même une... Je pense que ça a été une révélation. Et là, si, pour parler du métier d'avocat, c'est une révélation à ce moment-là, parce que si vous voulez, c'est vrai que j'ai même quand je commence à travailler, je assez naturellement, donc je rejoins un cabinet de conseil, donc et la profession d'avocat au sens de l'avocat plaidant, je n'y pensais pas particulièrement, mais il s'avère que tout de suite on sait qu'il va avoir la fusion, et donc en fait Baker McKenzie, qui était à l'époque donc un cabinet de conseil, se prépare à cela et donc intègre en son sein des avocats plaidants. Et moi, tout de suite, ça m'attire beaucoup. Parce qu'en fait, chez les matières, je fais beaucoup de contrats, je fais beaucoup de consultations en droit économique, et en fait, des précontentieux, etc. Donc, ça m'attire tout de suite. Et donc, tout de suite, je me mets, en fait, sur les dossiers contentieux avec ces avocats plaidants qui ont intégré le cabinet. Et lorsque, le 1er janvier 92, je deviens avocat, pour moi, c'est tout naturel, effectivement, d'aborder la chose contentieuse et de pas exclusivement le conseil. D'ailleurs, je pense que c'est une chance dans le sens où... aujourd'hui, enfin, je pourrais vous parler plus de ce que je fais aujourd'hui, de ce que j'ai fait durant ma carrière, mais j'adore le contentieux, oui. J'adore plaider.
On va y revenir. Vous dites que vous avez intégré Baker et McKenzie. Comment ça se passe chez Baker et McKenzie à l'époque ?
C'est intéressant parce que ça permet de voir, en fait, au travers de ce type de cabinet, l'évolution du droit en France. Moi, j'intègre donc Baker McKenzie Paris, hein, en 80, comme je vous le disais, en 88. Faut comprendre qu'en 88, c'est un cabinet, un beau cabinet, il y a 20 avocats. 20 avocats, de tête, je crois qu'il devait avoir 7 associés, 7 partners et 13 collaborateurs. Et je crois que peut-être 5-6 ans après, j'y étais, parce que je suis resté 7 ans chez eux, ça avait plus que doublé. Je crois qu'aujourd'hui, il devait être à 200, quelque chose comme ça. Donc, alors que le bureau avait été créé en 63. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution donc, de 63 jusqu'à début des années 90.
Oui, voilà. C'est 20 personnes entre 63 et 90. Mmh. Et puis ensuite, ça a doublé 7 ans plus tard. Quoi.
Ouais, exactement. Ouais.
Et oui, en termes de type d'activité, vous dites tout de suite droit de l'entreprise, beaucoup de droit commercial, etc.
Droit de la distribution, essentiellement droit de la distribution, droit de la concurrence. En fait, j'ai la chance chez Baker McKenzie de rencontrer et puis de travailler de façon très proche, puisque c'était l'associé avec lequel je travaillais le plus, qui est Christine Lagarde. Voilà. Que j'ai donc côtoyé pendant 7 ans et qui, à l'époque, était toute jeune partenaire du bureau de Paris de Baker McKenzie.
C'est fou, ça. C'est comment de travailler avec Christine Lagarde ?
C'est très bien.
Comment
j'en parle
comme
patron ? J'en parle parce qu'à cette époque-là, elle n'était pas ce qu'elle est devenue.
Ben oui.
Donc, c'était juste une jeune avocate au sens... elle venait juste d'être partenaire. C'était quelqu'un de très brillant. C'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact. Je peux dire qu'elle est toujours très brillante, d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un de très brillant, quelqu'un, puis avec une très grande humanité. C'était vraiment un plaisir que de travailler avec elle. C'était ma patronne, on va dire, tout simplement. Et donc, avec une relation, ouais. Tant de travail qu'humaine, très chouette, très chouette.
Qu'est-ce qui fait que vous en êtes partie de Baker & McKenzie 7 ans plus tard ?
Je crois que ça revient peut-être un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est l'envie d'entreprendre, tout simplement. Je crois que j'aurais pu rester chez Baker, je serais pas allé dans un autre cabinet du même style, je me sentais très bien là-bas, non. Là, c'est envie de créer quelque chose. Le droit en lui-même, que j'adore, et que j'adorais et que j'adore toujours, ne m'était peut-être pas suffisant, j'avais aussi l'envie d'entreprendre, voilà.
Je sais pas si les avocats, c'est pas une question que je pose et que je devrais la poser, mais je sais pas si les avocats dans ces structures ont l'impression d'entreprendre, même quand ils développent une clientèle avec et pour le cabinet. Vous aviez, en tout cas, à titre personnel, pas l'impression que les marges de développement que vous pouviez avoir en évoluant chez Baker & McKenzie répondaient à votre notion de l'entrepreneuriat à vous?
Oui, non, je ne le pensais pas. C'était peut-être d'ailleurs une erreur, hein, parce que je connais des avocats qui étaient de ma génération, qui sont restés, qui malgré tout ont réussi à en tant que partenaire et à développer une clientèle. Donc j'aurais peut-être pu le faire, mais oui, à cette époque-là, j'avais envie d'autre chose. Puis peut-être qu'aussi, au fond de moi, j'avais quand même une envie de changement. C'était ma seule expérience. J'avais pas goûté à un autre cabinet avant ni après, puisqu'après oui, mais de façon différente. Voilà, mais je pense oui, d'un point de vue de la notion entreprendre, j'avais un manque.
Donc vous partez pour vous installer ?
En fait, au départ, je pense le faire en deux étapes. Et la première, c'est plutôt d'intégrer une plus petite structure pour un peu revenir. Vous savez, dans les grosses structures, on est tellement avec des gros clients, très internationaux, etc. Peut-être je me disais que ça, c'est pas la meilleure des façons de se projeter. Donc je me voyais plutôt intégrer une petite structure et puis dans laquelle j'aurais pu me développer, etc. Bon, le problème, c'est que ça n'a pas été simple. Parce que lorsque vous sortez d'une grande structure avec les niveaux de rémunération que l'on avait intégrés, puis à l'époque, il y avait une plus grosse différence entre les... Enfin, je vous ai dit, j'appelle une grosse structure qui aujourd'hui ne serait pas très grosse d'ailleurs. Bref. Donc, ça n'a pas été simple. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé, j'ai rencontré un cabinet qui m'a proposé un espèce de format de collaboration, un peu de troc, en d'autres termes, me mettant à disposition les moyens, en contrepartie desquels j'allais collaborer sur leur dossier et apporter mon savoir-faire, mon expérience dans ma matière notamment, et puis me permettant donc en parallèle de développer mon activité. Voilà comment cela s'est fait.
Donc un troc avec, quand vous dites, ils mettent à disposition les moyens, c'est-à-dire bureau, salle de réunion, tout ça.
Oui, tout à fait.
Photocopieur, assistant, assistante,
oui,
voilà.
Oui, tous les moyens matériels.
Oui, et je crois que ça n'existe plus. Je crois que c'est plus possible de faire ça du pur apport en nature contre contribution professionnelle.
Oui, enfin.
Non, mais c'est intéressant.
Ouais, non, d'un point de vue déontologique, peut-être effectivement. Enfin, même, il y a à redire. Après, si vous voulez, c'était un petit peu des accords. D'ailleurs, on n'avait pas d'accord écrit. Hein, tout ça, c'était fait oralement. Il y avait une communauté d'intérêt. D'ailleurs, ça a été utile pour moi parce que.
Ouais, j'allais vous demander comment ça s'est passé pour vous.
Ça permet de mettre. Vous savez que quand on parle justement d'entreprendre, il y a quand même l'aspect financier, c'est-à-dire que vous vous retrouvez sans aucune garantie de revenus. Bon, ça, ok, on l'assume, mais il y a les charges. Donc, si vous n'avez pas de garantie de revenus, mais avec des charges fixes qui, même si on peut les limiter au maximum, existent, là, l'avantage, c'est que ça permettait de démarrer sans quasiment aucune charge.
Oui, puis il faut aussi se remettre. Aujourd'hui, on peut avoir des charges fixes extrêmement réduites parce que globalement, avec un ordinateur et une domiciliation et une adresse professionnelle, on travaille. Et Internet, on travaille. À l'époque, c'était peut-être pas aussi.
Vous avez tout à fait raison. Alors, on avait quand même déjà l'outil informatique, mais il y avait pas Internet où c'était au tout. Oui, non. Parce que moi, je démarre en 95 et non, c'est vrai. Et puis, effectivement, on n'avait pas. Les méthodes de travail étaient différentes et on avait besoin de plus de matériel que ce que l'on peut par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Et vous dites donc que ce deal, enfin globalement vous vous y êtes retrouvé, vous avez comment s'est passé votre développement de clientèle? Comment vous vous y êtes pris? Comment c'est venu? Est-ce que ça a pris longtemps? Tout ça?
Oh, il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu. Je pense qu'il faut se lancer. Si on ne se lance pas, en fait, ça ne se fera jamais parce qu'on n'a aucune certitude. Moi, je suis parti sans aucune certitude, mais il s'est avéré que je suis parti avec deux dossiers de chez Baker McKenzie, bien évidemment avec l'accord du cabinet, tout simplement, parce que j'avais une très forte implication sur ces deux dossiers qui étaient des contentieux importants et donc qui m'ont amené un petit peu un fond de roulement. Et puis le reste, c'est venu par le bouche à oreille. Je peux pas vous dire que j'avais une véritable stratégie de développement de communication très développée et puis ça s'est fait petit à petit et puis ça fonctionne.
non mais c'est vrai, plus sérieusement, vos clients, qu'est-ce qui s'est dessiné comme contour de clientèle, sur quoi est-ce qu'on vous a consulté, comment on va dire, comment s'est structuré votre activité, le début, peut-être les évolutions entre les débuts et aujourd'hui, tout ça m'intéresse.
Je crois que c'est vraiment une question de personne, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres et puis on a des clients, ça peut être aussi par des confrères, ça peut être par tout le réseau professionnel que l'on peut avoir. Ça fait boule de neige. Un client qui est satisfait vous en amène un autre. Moi, à l'époque, j'essayais d'écrire. J'écrivais. On avait accès. Encore une fois, effectivement, on n'avait pas Internet. Donc, on écrivait dans les journaux papier. Il y avait les Échos déjà qui ouvraient aux avocats, aux juristes une page et on pouvait écrire. Et voilà, j'écrivais, je faisais un petit peu de doctrine. Moi, j'essayais de me développer donc dans ma matière. Et donc, il venait de s'ouvrir le dictionnaire permanent droit du sport et je m'étais occupé toute la partie droit de la concurrence, etc. Donc bon, ouais, je me bougeais, puis voilà, et les clients arrivaient comme cela. Après, la particularité un petit peu de mon cas personnel, c'est que les gens avec qui j'ai commencé à collaborer sous la forme que je vous expliquais, on s'est associés assez rapidement au bout de 18 mois. Et ça a été ma première expérience d'association qui s'est pas très bien terminée, mais qui a quand même eu le mérite là d'exister, de me mettre le deuxième pied à l'étrier. Et puis bah là, grâce à cette association, ça a commencé à prendre de l'envergure. Et association qui a duré jusqu'à fin 99, 2000, et où là 2000, je refais un nouveau redémarrage, cette fois-ci seul, voilà.
Ouais. Et vous dites le fait de vous associer, ça a un peu soufflé sur votre développement, quoi. C'est-à-dire ça vous a porté, vous avez vu une différence en termes de développement à partir de l'association. Est-ce que c'était lié à l'apport de dossiers qui était fait par le cabinet stricto sensu? Ou est-ce que c'est tout simplement, d'un point de vue peut-être de l'image, le fait d'être associé d'un cabinet et voilà, ça qui, on va dire, a contribué à meilleure attractivité de votre de qui vous étiez, à voilà, quel est votre regard là-dessus?
Un peu les deux. Je pense qu'effectivement, tout d'abord la synergie, le fait du travail en groupe. Moi je crois, je sais qu'il y a des confrères qui sont seuls, qui restent seuls et qui sont très bien, et donc je suis très respectueux de cela. Moi personnellement, j'aime le travail en groupe et je pense qu'effectivement pour le développement, c'est quand même plus facile. Il y a un phénomène de groupe qui permet quand même de développer. Ça, c'est déjà en tant que tel. Et puis, le deuxième aspect, la notion d'attractivité du cabinet, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a une structure, que vous n'êtes pas tout seul, puis il y a un problème aussi de compétences à ajouter à cela, c'est-à-dire que c'était déjà le cas avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Il y a, pour couvrir, je dirais, largement des secteurs du droit, c'est quand même aujourd'hui de plus en plus compliqué, ça l'était déjà encore une fois avant. Donc, lorsqu'on est plusieurs, ça nous permet aussi d'avoir un champ d'investigation quand même plus large sur les matières du droit. Encore là, nous ne parlons que du droit des affaires, mais déjà entre dire celui qui va vous dire que c'est un bon fiscaliste qui fait du droit du travail, etc., et droit d'une société et puis du contentieux. Bon, certains le font bien évidemment et avec succès. Le débat n'est pas là, mais oui, je pense. Enfin, moi, j'ai toujours aimé le travail en groupe. Oui.
Et donc, vous dites cette association se termine au bout de quelques années. Enfin, ne dure pas très longtemps finalement. Et donc, vous repartez l'aventure. Et comment est-ce que vous repartez justement?
Oh, c'est une expérience qui a pas été facile parce que ça s'est pas bien terminé. Je rentrerai pas dans les détails, mais j'étais associé avec quelqu'un de plus âgé que moi et une troisième personne avec qui, par contre, j'ai toujours continué à très très bien m'entendre. Mais ça s'est pas bien passé. Ça, c'est les difficultés. Ça, c'est l'avantage quand on est seul. Ma foi, on s'entend, on n'a qu'à s'entendre avec soi-même. Lorsqu'effectivement on est associé, Donc ça a pas été simple. Mais ça a été une expérience. Je pense que j'étais jeune. Hein. Je me suis lancé, j'avais 32 ans. Donc oui, j'avais tout à apprendre. J'ai appris sur le tas. Donc l'association, cette première expérience d'association n'a pas été simple.
Qu'est-ce que vous avez appris justement, sans rentrer dans les détails encore une fois, mais qu'est-ce que vous avez appris sur peut-être sur vous, sur l'association aussi, un peu retour d'expérience de cette étape.
De l'humilité d'abord, c'est-à-dire je pense que c'est vrai qu'un cabinet c'est une entreprise, donc il faut la gérer. Faut la gérer, faut faire attention, faut pas être trop prétentieux, faut pas tout de suite se croire ce qu'on n'est pas. Donc, je pense qu'en termes de charges, faut faire attention. C'est déjà difficile de trouver du chiffre d'affaires, c'est difficile de trouver des clients. Il faut bien évidemment être bon, j'aurais dû le dire la première des choses, c'est-à-dire que si on n'est pas un bon juriste, un bon avocat, mais enfin, beaucoup sont bons, hein, je veux dire, donc c'est aujourd'hui, c'est pas suffisant pour se différencier. Donc de l'humilité, de revenir aux fondamentaux, et c'est ce que j'ai fait lorsque je me suis retrouvé tout seul, c'est-à-dire les fondamentaux, je veux dire, de charge réduite, et puis se mettre au travail, enfin se mettre, continuer, mais ouais. Se concentrer sur le travail pour développer son activité. Mais c'était une bonne expérience après coup.
Vous vous relancez tout seul. Et pareil, j'imagine que vous aviez quand même un portefeuille de clients un peu plus conséquent à ce moment-là que quand vous étiez parti de chez Baker & McKenzie, puisque vous, enfin, voilà, il y a quand même un peu d'eau qui a coulé sous les ponts et voilà. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, j'avais effectivement une clientèle. Alors tout seul, pas complètement tout seul. C'est-à-dire que la troisième, on était trois et on est sommes deux à être sortis, mais on s'est remis ensemble, mais uniquement en structure de moyens informels d'ailleurs, puisqu'on n'avait aucune structure, mais on était physiquement ensemble. Donc c'était quand même moralement important, mais d'un point de vue purement structurel, j'étais tout seul, oui, avec un fonds de clientèle qui était là. Et puis bah là, j'ai commencé à bâtir. Donc là, en début des années 2000, de 2000 à 2005, là c'est la phase de construction. C'est la phase de construction de mon cabinet. Oui, avec une base de clientèle. Oh, qui était très 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 hétérogène. J'avais la chance d'avoir quelques grands noms, quelques grands groupes. Bien évidemment, j'avais pas tous leurs besoins, mais sur les aspects qui relevaient vraiment de mes compétences, j'ai fortement développé le contentieux. Hein, quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui une activité contentieuse importante.
Droit commercial, concurrence, distribution sur.
Oui, essentiellement. Enfin voilà, après en contentieux, c'est beaucoup de contentieux en matière contractuelle. Alors, contractuel, soit du contrat pur, soit après avec tout ce qui est l'ingérence du droit économique là-dessus, le droit de la concurrence, ou bon, bref, tous ces aspects-là. Donc, pas mal de propriété intellectuelle aussi, beaucoup de propriété intellectuelle, beaucoup de droits des marques, mais en lien justement avec le droit de la distribution, qui sont des matières en réalité qui sont techniquement très différentes, mais qui s'entrecroisent beaucoup d'un point de vue du besoin des clients.
Expliquez-moi ça, l'entrecroisement droit des marques et droit de la distribution.
C'est-à-dire que le droit de la distribution, derrière, il y a un produit, il y a un service que l'on distribue, que l'on commercialise, et généralement, il y a des marques qui y sont attachées. Donc le droit des marques est omniprésent, soit au stade de la création de la marque, donc tout ce qui est dépôt, etc. Et puis après, au stade de son exploitation, les problèmes qui peuvent se poser, soit d'un point de vue purement contractuel, si on veut licencier sa marque, etc. Soit aussi, et surtout, en termes de défense, parce que, effectivement, le droit des marques, sa marque peut être attaqué par des concurrents, alors que ce soit de la contrefaçon pure, la propriété intellectuelle, ou au travers de concurrence déloyale, le parasitisme, toutes ces choses-là. Donc là, on a le droit de la distribution qui est réseau de distribution, etc., avec une très forte dominante là, de droit de la concurrence, droit des contrats et droit de la concurrence, et puis avec ce droit de la propriété intellectuelle. Moi, j'ai fait beaucoup de contentieux, effectivement, en propriété intellectuelle, droit des marques, dans le cadre de réseaux de distribution. C'est là où on se rend compte, effectivement, que les deux matières se croisent. Voilà.
Ok. Donc, réseau de distribution, c'est par exemple Carrefour.
Non, c'est plus des réseaux de distribution. Je pense plus à la franchise, je pense plus D'accord. à la distribution sélective. Je travaille pas mal dans le luxe, donc, qui font appel donc, à ce qu'on appelle la distribution sélective. Ouais. La grande distribution, j'ai beaucoup de contentieux contre la grande distribution. Je suis plutôt pour les industriels, les fournisseurs dans leur relation avec la grande distribution que pour la grande distribution.
Non, mais c'est pour en revenir à ce croisement problématique de droit des marques et droit de la distribution, c'était pour bien comprendre dans quel maillon on était de la chaîne économique, quoi. Et donc, je comprends mieux ce côté.
Oui, mais je pourrais vous donner des exemples. Par exemple, je vous parlais de distribution sélective. Vous allez avoir un client qui vend des montres de luxe, et donc il va avoir tous les aspects distribution, création du réseau de distribution. Et puis, effectivement, il peut avoir de la contrefaçon qui va se mêler là au milieu de cela, soit de la contrefaçon du faux, mais soit tout simplement la violation du réseau de distribution, c'est-à-dire notamment, on y revient, de la grande distribution qui va vouloir commercialiser des produits qui sont réservés à un réseau de distribution, où là, effectivement, le droit des marques va être utilisé dans la défense du réseau de distribution, voilà, par exemple.
Ok, merci pour cet éclairage. Et donc, vous disiez que vous aviez une clientèle assez hétérogène à ce moment-là. Est-ce que c'est ce cabinet avec cette avocate avec qui vous étiez pas associé, mais on va dire
structure de moyens.
En structure de moyens, même ouais. sans structure, mais juste avec qui vous partagez des locaux, etc. Est-ce que c'est cette structure qui a donné lieu à MB, ou est-ce que ça a été encore une autre étape?
cette structure informelle s'est appelée MB, tout à fait. Et la première, d'ailleurs, s'appelait MMB. Il y a un M qui a disparu, donc on s'est retrouvé MB.
Berthaud,
c'était moi, je ne donnerai pas son nom parce que je ne veux pas le premier M. Et en fait, quand on s'est séparés tous les deux, on s'est séparés là pour des raisons, donc vers 2005 à peu près, pour des raisons purement, je veux dire, du fait qu'on avait des matières qui étaient pas les mêmes et on est resté en très bonne relation, mais nos parcours professionnels se sont séparés vers 2005 à peu près. Elle n'a pas souhaité justement conserver le nom MB et que j'ai conservé de mon côté. Donc le MB des années 2000 est devenu le MB de 2005, ce qu'il est encore aujourd'hui. Et c'est vrai que 2005, c'est une nouvelle étape de ma vie professionnelle.
Oui, parce que c'est quand elle est partie que vous avez commencé à développer, enfin que MB a grandi. Est-ce que ça a été parce que voilà, maintenant vous êtes nombreux quand même, MB, il y a plusieurs bureaux, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque et aujourd'hui pour qu'il y ait tant de changements de structure?
Vous savez, la vie parfois et souvent réserve des surprises. Il y a eu une étape importante, c'est qu'en 2005, pour des raisons personnelles, et ce n'était pas guidé par un objectif professionnel, je suis parti vivre en Espagne, à Barcelone, tout en continuant à développer l'activité et à travailler donc à Paris, faisant beaucoup d'allers-retours. J'étais avec en famille donc à Barcelone. Ce qui était parti pour être une expérience de vie plutôt de courte durée, a perduré. Ça a duré et au bout de deux ans, un ou deux ans, j'ai commencé à regarder ce qu'il était possible de faire à Barcelone. En d'autres termes, comment on pouvait développer une activité à destination de Français, donc en Espagne. Et c'est de là qu'est né le MB d'aujourd'hui, c'est-à-dire puisqu'aujourd'hui, on est un cabinet à très forte connotation franco-espagnole. On a donc deux bureaux en Espagne, et à Barcelone et à Madrid. Et c'est parti de cette histoire-là, qui était une histoire, encore une fois, pas guidée par un objectif professionnel précis. Et les choses ont fait des rencontres après, des rencontres professionnelles à Barcelone. Et voilà. Et donc,
ça a été dur de développer en Espagne ? Sachant que vous n'êtes pas espagnol, vous n'êtes pas...
Vous savez, je crois qu'il faut vraiment perdre de vue, c'est que le métier d'avocat, c'est fondé sur les gens, sur les avocats. Donc il faut des qualités humaines, il faut des qualités humaines au sens de l'humain, mais des qualités professionnelles, du savoir-faire, de la compétence. J'aurais été totalement incapable de développer moi, tout seul, un cabinet à Barcelone, et nulle part ailleurs, d'ailleurs, dans quelques pays étrangers que ce soit, tout simplement parce que je n'avais pas les compétences pour. Donc j'ai joué un vrai rôle de chef d'entreprise, à savoir de dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il fallait trouver les gens. Et il s'avère que j'avais retrouvé à Barcelone une personne que je connaissais très bien, que j'avais eu, une avocate, que j'avais eu comme stagiaire au tout début, là on remonte à 95, qui s'appelle Virginie Molinier, elle je peux donner son nom puisque c'est mon associé encore aujourd'hui, qui était dans un gros cabinet espagnol à l'époque, Quatre Casas. Et quand je dis tiens, je veux vraiment faire quelque chose là-bas, il y a quelque chose à faire, je savais que c'était la personne adéquate. Et effectivement, elle m'a rejoint en 2009. Et là, c'est à partir de là que véritablement, parce qu'elle avait la compétence, c'était une Française, mais elle avait travaillé, elle avait commencé aussi chez les Américains. Elle était chez Debevoise et Plimpton, et puis elle était partie apprendre l'Amérique du Sud avant de revenir donc à Barcelone. Mais elle travaillait véritablement en droit espagnol, une vraie compétence. Et donc, c'était encore une fois la personne idoine. Et c'est de là que véritablement nos bureaux espagnols, enfin notre bureau de Barcelone à l'époque, a commencé à prendre son envol.
Donc, vous étiez tout seul à Paris. Cette rencontre avec Virginie Molinière fait que globalement, vous vous projetez il y a une ouverture de bureau en Espagne, donc c'est, on va dire, la genèse du cabinet transfrontalier, on va dire.
Juste une précision, en fait, en 2005, je ne suis pas tout seul, j'ai deux collaboratrices, dont une, Élodie Loriot, là aussi je peux citer son nom, puisqu'elle est associée aujourd'hui. Élodie me rejoint, et là, c'était quasiment sa première expérience. Je crois qu'elle avait... Oui, c'était sa première expérience, donc en juin 2005, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, donc on a fait... Puis j'avais une deuxième collaboratrice, donc on était trois à Paris, moi qui faisais les allers-retours, et puis donc développement, et 2009, effectivement, d'arriver donc de Virginie.
Et cette providence qui fait qu'en plus, votre premier associé entre guillemets de la nouvelle ère. Son nom de famille commence par un M, donc vous avez même pas besoin de changer le nom de marque. Enfin, ça n'a pas d'impact sur le nom de marque.
Vous avez raison, c'est tout à fait vrai. C'est le hasard. Je vous cache pas que ce n'était pas prévu au début, mais écoutez, voilà.
Et les autres bureaux, Madrid, etc. Comment est-ce que ça s'est construit?
Bah, Madrid, ça a été un petit peu dans la logique. C'est-à-dire que là, on a vraiment axé le développement sur à destination, donc, des clients étrangers qui s'implantent ou qui sont déjà présents en Espagne et essentiellement français, francophones, quelques anglo-saxons, mais on est vraiment sûr. Alors donc, la zone de Barcelone est intéressante, la Catalogne, parce que c'est quand même une région espagnole économiquement forte, mais n'en demeure pas moins que Madrid, c'est la capitale. Et donc, ne pas être présent à Madrid pouvait être préjudiciable, quoi, à l'égard de certains clients qui ne seraient pas venus vers nous s'ils souhaitaient s'implanter à Madrid. Donc, c'était nécessaire de le faire, et on l'a fait pas tout de suite, mais assez rapidement.
C'était principalement des entreprises française qui voulait se développer en Espagne, ou vous savez, ça vous a amené à développer un aspect plus particulier, enfin à mi-chemin entre particulier entreprise, les particuliers qui investissent, je sais pas moi, dans l'immobilier ou autre en Espagne.
Oui, on a quand même essentiellement une clientèle d'entreprise. Après, on a des particuliers sur le terrain que vous venez de citer, sur l'immobilier, sur des acquisitions immobilières. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement par un avocat en Espagne, parce que le notaire ne joue pas le même rôle que chez nous, et donc il est très recommandé de se faire assister par un avocat, alors ne serait-ce que pour acheter un appartement ou une maison de vacances, une maison secondaire. Donc on a une clientèle de particuliers. Bon, après on a aussi des particuliers qui sont en phase d'implantation, de création de leur entreprise. Mais le particulier, dans le sens de déconnecter de l'entreprise, c'est essentiellement sur ces questions-là. On fait aussi pas mal de successions transfrontalières, parce qu'on est pas mal de Français ont de génération actuelle ou génération passée qui ont acquis des biens immobiliers, et après ils décèdent et les enfants doivent gérer les successions. Donc on fait pas mal de ceci. Et là, encore une fois, c'est pour une clientèle de particuliers. Mais notre clientèle première, ce sont les entreprises.
Oui. Et sur les aspects de droit des successions, c'est une de vos associées qui s'en occupe en particulier?
Oui, c'est une matière. On a d'ailleurs organisé là des conférences cette année là en 2023 à Montpellier, à Toulouse, à Perpignan, à Bordeaux et à Paris sur ce sujet, donc des successions transfrontalières avec un bon succès, notamment donc là tout les notaires fortement intéressés effectivement, parce que c'est généralement eux qui se retrouvent confrontés à ces besoins. Donc on a une associée effectivement qui est très dédiée, et puis après ça mêle les aspects en fait purement de droit civil, j'allais dire, mais avec aussi les aspects fiscaux, bien évidemment, qui sont très importants.
Voilà. Ouais. Comment est-ce que le cabinet a continué à grandir? Donc vous disiez, il y avait 3 personnes à Paris en vous incluant vous, 2 collaboratrices plus vous, qui faisiez, on va dire, la navette entre Paris et Barcelone, Virginie Molinière. Et ensuite, comment est-ce que ça a grandi?
Oh ben là, après, c'est le travail. Au départ, c'est vraiment un travail de développement, un petit peu comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire sans grande stratégie, c'est-à-dire par ce que j'appelle les prescripteurs, c'est-à-dire que par le réseau qu'on ne peut avoir, notamment lorsque vous êtes présent à l'étranger, vous pouvez avoir, les confrères sont intéressés de connaître, ah tiens, je sais, il y a Berthaud, il y a Molinier qui sont là, si jamais un jour j'ai un besoin, j'ai un dossier ou j'ai un besoin sur l'Espagne, je sais que je peux faire appel à eux. Donc on a toute cette clientèle qui peut venir justement par les confrères. Et puis depuis maintenant quelques années, on a une véritable stratégie de développement. On a 2 personnes au sein du cabinet qui s'occupent de la communication, avec des legal flash, avec des conférences, j'en parlais tout à l'heure. Et on a une véritable stratégie de développement, de promotion, de communication qu'on n'avait pas au début, maintenant que l'on a, et qui porte ses fruits. L'idée, c'est vraiment pour nous de se positionner comme le cabinet de référence sur le franco-espagnol, c'est-à-dire dans l'accompagnement. Mais là, j'y reviens, hein, la com, c'est bien joli, mais c'est surtout les gens. C'est-à-dire que si vous regardez sur le profil, sur notre site internet des collaborateurs, on a une équipe qui est assez jeune. je suis pas forcément représentatif d'ailleurs à ce sujet, mais bon, eh bien, c'est la plupart sont des gens qui ont fait des doubles formations, droit français, droit espagnol. S'ils avaient une appétence pour les deux droits, c'est que généralement il y a une histoire familiale ou enfin il y a quelque chose derrière qui explique cela. Donc au-delà des langues, nous on est, comme on dit, on n'est pas juste des Français qui parlent espagnol, des Espagnols qui parlent français. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler dans les deux droits et de comprendre en fait. Les différences culturelles ou de culture juridique qui peuvent exister, les droits sont pas fondamentalement différents, mais il y a quand même pas mal de faux amis. Donc c'est là-dessus où on fait véritablement la différence. Donc toute la com que l'on peut faire là-dessus, on le fait, mais qui est bâtie sur une réalité qui est constituée en fait de l'équipe que l'on a aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai que, enfin, pour avoir fait la double maîtrise au droit français et espagnol de la Sorbonne et de la Complutense, MB Avocat faisait vraiment partie des cabinets dont on savait enfin que il y avait une activité voilà très droit français et droit espagnol qui était forte, qui était pas juste bon ponctuellement ça nous arrange d'avoir un collaborateur qui parle espagnol quoi. Et en termes d'association, vous avez évoqué donc en fait tant Virginie que l'autre associée qui était votre
Élodie
Loriot, enfin vous aviez travaillé avec elle ensuite bon Virginie s'était mise enfin en tout cas avait poursuivi sa route et puis vous vous êtes retrouvés, mais il y a eu ce développement finalement presque par l'interne, j'ai envie de dire. Est-ce que ça a été aussi le cas de d'autres associés du cabinet?
C'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que bâtir comme ça un cabinet, ça se fait pas non plus en deux minutes. Et pendant, on est resté un peu sur les fondations, sur quelques années. On a eu une époque où peut-être qu'on s'est trompé, ou je ne sais pas, mais on a eu des départs, ça allait pas. Enfin, bref, on a un petit peu, voilà, c'était, on était au stade des fondations. Et voilà, on n'a pas eu une croissance comme ça qui est partie. Et on s'est posé la question, on s'est même fait un petit peu aider d'ailleurs pour structurer le cabinet.
Avec un consultant, un coach par quel type de profil?
On a fait appel à des compétences externes pour, parce que comme on dit toujours, on est avocat, il faut qu'on soit bon avocat, bon juriste, ça c'est évident, mais il faut être bon gestionnaire, il faut être bon commercial, il faut être bon financier, c'est pas évident. Et puis bon manager, donc bon, on s'est un petit peu aidé et c'est vrai que donc là on est aujourd'hui à un moment où on est dans cette phase là. Bon, si on a quand même déjà Élodie Loriot qui était en interne, mais là on arrive au moment là, c'est très intéressant la période à laquelle nous arrivons, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des gens, on a très peu de turnover aujourd'hui, on a une équipe vraiment très chouette, et il paraît assez naturel de leur proposer un avenir, s'ils le souhaitent, si elles le souhaitent, parce qu'on a un cabinet qui est quand même très féminin, et là on est en train de travailler là-dessus, ouais. Et ça c'est l'étape de maintenant là.
Ouais. Vous travaillez aussi avec un consultant dessus?
Oui, on se fait un petit peu aider là aussi. Ouais, ouais. On se fait un petit peu aider.
Et si on revient sur le premier accompagnement à la période de flottement que vous aviez connue à un moment, qu'est-ce que vous avez le plus retiré de ce premier accompagnement? Enfin, voilà, en termes de un peu d'avant après, de la manière dont ça vous a aidé. Quel est votre retour d'expérience?
Ça permet. Oh, c'est toujours pareil. Hein, c'est on peut se dire, bah, finalement, on est capable de faire tout ça nous-mêmes. On n'a pas besoin. C'est un peu du blabla, etc. Ça permet de structurer, en fait. Ça permet de structurer. Le problème, c'est quand on travaille, on a le nez dans le guidon et puis on prend pas de la hauteur pour pouvoir penser à tout cela. Là, on nous force à penser à cela parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui réfléchit avec nous, qui nous force à réfléchir, qui nous force à structurer une pensée. Et donc, tout simplement, après, c'est de la communication dans le sens là, c'est pas de la com comme public,
non, de la
c'est
communication de la com interne. Ouais.
Et pour pouvoir, et pas uniquement avoir des collaborateurs avec qui on travaille, etc. Mais là aussi, commencer. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de pouvoir, en fait, vivre entreprise, un cabinet sur une entreprise, je le disais, et puis de pouvoir offrir des perspectives. Donc c'est, oui, ouais. C'est-à-dire que on peut tout faire tout seul, tout est possible. Mais le problème, c'est que très souvent, on ne prend pas le temps de le faire.
Je suis tellement d'accord avec vous. Du coup, il y a une partie des associés qui sont venus de l'extérieur. Entre, on va dire, cette phase-là, à cette époque, et la phase actuelle où vous êtes en train de faire monter des gens, est-ce qu'il y a eu de la structuration aussi par des associés qui sont venus de l'extérieur ou autre, ou est-ce que c'est quand même longtemps resté juste vous et Virginie Molinière?
En fait, si vous voulez, on a créé une structure après qui était un petit peu plus. On a souhaité pouvoir ouvrir le cabinet. En fait, on est structuré nous d'une façon qui est qu'on a une société, une Cellarl en France, et on a l'équivalent. Les Cellarl n'existent pas. C'est comme vous diriez une SARL en Espagne. Il n'y a pas de format spécifique pour les professions libérales. Donc, on a deux structures avec les mêmes associés, les trois associés que j'ai cités, qui sont dans les deux structures. Ça, d'ailleurs, c'est un point important. Comme je dis toujours, nous, les bureaux espagnols, c'est les mêmes. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre la France et l'Espagne. C'est vraiment les mêmes personnes qui sont derrière. Je ferme la parenthèse sur ce point. Et après, on a créé une ARPI pour pouvoir faire rentrer justement des gens extérieurs potentiellement qui avaient envie de partager la vie de MEB, mais sans être directement associé dans nos structures, entre guillemets, de capitaux que sont donc notre Cellarl et notre Cell en Espagne.
Ouais, et quand même avec une logique de, je sais pas si de rapprochement, mais nécessairement rapprochement, parce que s'il y a une ARPI, c'est qu'il y a un rapprochement, mais aussi avec une logique, on va dire, d'adjoindre des compétences que vous aviez pas en interne et de pouvoir faire des échanges de flux de ce point de vue-là.
Oui, bien sûr, mais ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que le groupe, enfin, encore une fois, on peut exercer seul, mais c'est vrai que le groupe. Un, ça permet de créer de la synergie en termes de clients, et puis ça apporte des compétences nouvelles qu'on n'a pas. Donc oui, moi je pense que après toute la difficulté, c'est de trouver la bonne taille. C'est vrai que là on est aujourd'hui une vingtaine, hein, entre 20 et 25 répartis sur les deux pays en tant qu'avocat. Ça commence à c'est tout à la fois petit quand on voit aujourd'hui les structures qui existent. On n'a pas nous vocation, enfin on n'a pas l'objectif, on va dire aujourd'hui,
de croître.
Non. Parce qu'après, ça devient, enfin, c'est autre chose. Enfin, l'avenir le dira, on verra bien. Mais c'est pas l'objectif. Mais c'est vrai qu'il y a des times qu'on appelle un petit peu intermédiaires, qui sont à voir. Mais oui, non, c'est vrai que l'objectif, c'était effectivement de s'adjoindre des compétences supplémentaires.
Donc, quand vous dites 20, c'est en incluant les personnes qui sont dans la ARPI.
Oui. Oui, en Espagne, par exemple, on a aussi ce qu'on appelle des off-counsel, c'est-à-dire des gens avec qui n'ont pas un statut de collaborateur au sens souvent on parle de collaborateur, on imagine des avocats jeunes et qui sont, d'ailleurs en Espagne, ils ont le statut de salarié, alors que nous, en France, on a maintenu le statut libéral qui nous semble plus conforme à la façon de travailler que l'on a, qui est un peu différente en Espagne, la culture n'est pas la même. Donc on a des off-counsel qui ont des gens qui ont une expérience, etc., un savoir-faire particulier et qui, bon, ne sont pas associés, pourraient l'être d'ailleurs, mais ne sont pas des collaborateurs. Donc, mais on travaille malgré tout finalement de la même façon, sans grande différence par rapport à quel que soit le statut, j'allais dire.
Ouais, vous parliez de la culture différente entre l'Espagne et la France sur... ce que je comprends, c'est le mode de travail, enfin en tout cas la culture de travail. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et penser? Enfin, moi je suis un peu biaisée parce que je connais un petit peu l'Espagne, mais vous, votre regard sur, on va dire, la différence de culture en Espagne, entre autres, qui justifie que là-bas vous soyez sous contrat salarié, et ce que vous voyez ici comme culture et comme manière de travailler, qui fait que vous avez préféré maintenir le statut libéral ici?
En Espagne, en fait, le statut, vous imaginez qu'il y a encore quelques années, je dirais, il y avait le statut d'avocat était quasiment pas réglementé, c'est-à-dire que vous sortiez avec un master et vous étiez abogado, abogada. Donc concrètement, moi je pense que peut-être qu'en Espagne il y a un besoin d'être moins d'indépendance, plus structuré, plus accompagné, un jeune qui démarre, alors qu'en France, même aujourd'hui, ce côté libéral de l'avocat est encore vrai, quand bien même, on sait que beaucoup sont salariés, d'ailleurs, le statut de salarié aujourd'hui est reconnu et possible, et beaucoup sont salariés, mais je pense qu'il y a ce besoin d'indépendance qui est important, nous, je sais que les collaborateurs ont des clients personnels, j'ai l'impression, c'est ma vision, maintenant je suis moins en Espagne, hein, moi je suis quand même revenu là en France, mais j'y vais quand même très 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 souvent, beaucoup, mais je dirais cela, je pense qu'il y a peut-être un besoin d'accompagnement plus fort en Espagne au niveau des jeunes qui débutent, peut-être par rapport à la France, quand bien même ils en ont besoin eux aussi, hein, c'est certain.
Et juste question vraiment de la pure curiosité, en termes de, je sais pas moi, de turnover, d'horaires, de des choses très liées vraiment au travail. Vous voyez des différences entre le bureau espagnol, entre les bureaux espagnols et les bureaux français?
Moi, je pense que nous sommes déjà atypiques. Enfin, il me semble, nous sommes atypiques tant en France qu'en Espagne. On laisse une assez grande, pour pas dire une très grande liberté aux collaborateurs. Par exemple, avec le télétravail, nous, on n'a pas fixé de règles. On n'a pas fixé de la règle. On laisse les choses se faire et on laisse chacun se responsabiliser. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et ça fonctionne. Là, on le fait des deux façons, tant en France qu'en Espagne. Je pense que dans le quotidien, ça se fait normalement moins en Espagne que ça peut se faire en France. Et nous, encore une fois, je pense qu'on le fait beaucoup plus même que la moyenne sur les deux pays. Donc, moi, je ne vois pas à ce niveau-là une grande différence chez nous parce qu'on applique à peu près les mêmes méthodes.
Oui. Comment vous voyez la suite ?
Bah, la suite, c'est que je pense que je serai peut-être le premier à quitter le cabinet, vu que je suis le plus âgé. Non, la suite, c'est justement, non, je plaisante pas en disant ça, c'est la vérité, c'est d'assurer sa pérennité. Ça serait chouette, et je pense qu'il y a tout pour que ça soit le cas, que ça fonctionne. Et grâce, encore une fois, on y revient, grâce aux gens, grâce à l'équipe, grâce à eux, d'où le travail qu'on doit faire aujourd'hui, qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de prévoir de leur montée, c'est-à-dire que maintenant, on a des collaborateurs qui ont débuté avec nous ou après une première expérience, mais qui sont ou qui sont pas loin d'acquérir potentiellement un statut d'associé. Donc il faut qu'on bâtisse cela pour que je vous parlais de fondation. Là aujourd'hui on est je sais pas si on est au premier, au deuxième ou au troisième étage, mais il faut continuer à bâtir tout cela.
Ouais, et là-dessus justement, enfin je comprends que vous êtes en pleine réflexion et tout ça, mais comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses ? Est-ce que c'est ça vient parce que vos collaborateurs vont développer une clientèle qui est une clientèle compatible avec celle du cabinet et que du coup ça ils s'adjoignent au cabinet ? Est-ce que c'est plus de la cession d'activité ? Est-ce que c'est plus comment est-ce que vous appréhendez les choses sur ce sujet de l'évolution du collaborateur vers le statut d'associé ?
C'est toute la pas la difficulté, mais c'est en fait il y a deux critères fondamentaux. Après on peut raconter tout ce que l'on veut. C'est d'abord la compétence, c'est-à-dire que pour pouvoir devenir associé, faut pouvoir être autonome sur un dossier, sur les clients. Ça c'est la condition sine qua non. Et puis après il y a l'aspect économique. C'est sûr que plus il faut partager le gâteau, plus il faut faire croître le gâteau. Donc oui, je crois que il faut que les avocats collaborateurs qui aspirent à une association soient effectivement capables de développer, d'où le fait qu'on les incite quand même à avoir une activité de développement, de promotion pour eux, puis demain pour le cabinet. Oui, c'est une donnée qui est importante.
Oui. Ouais. Ben non, et parce que c'est la partie concrète du sujet de l'évolution du collaborateur qui est pas forcément clair partout, quoi. Donc
c'est pas clair, mais c'est pas simple non plus.
Et c'est pas simple,
quand vous posez des questions, mais comment vous avez fait, etc. Vous avez vu qu'au départ mes réponses, elles étaient pas, j'étais pas non plus d'extrêmement clair, tout simplement parce que ça l'était pas. Hein. Je veux dire, il y a une prise de risque, etc. Donc non, c'est pas facile pour un collaborateur. D'abord, faut pas se raconter d'histoire. Il est quand même accaparé beaucoup par les dossiers du cabinet. Donc avoir le temps d'aller développer sa propre clientèle, c'est pas simple. Donc après lui demander cela dans une optique de devenir associé, ce n'est pas simple. Non, c'est une problématique, ouais.
Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre pratique sur le fond des dossiers et sur le type de client ?
Oui, moi je me suis quand même, je suis revenu, je suis moins spécialisé que je n'ai pu l'être. Oui, voilà.
Moi, ah, vous êtes moins spécialisé ?
Oui, moins spécialisé. C'est-à-dire que quand vous gérez des clients, donc même si j'ai autour de moi les compétences pour pouvoir bien évidemment traiter les dossiers sur les matières qui ne sont pas mes matières de prédilection, j'ouvre quand même le champ. Et puis après, comme je fais beaucoup de contentieux, le contentieux, notamment tout le contentieux, je le disais tout à l'heure, en matière contractuelle, finalement, et c'est assez large en termes de secteur, puisque moi je distingue pas le conseil du contentieux. J'ai fait mes gammes chez les Anglo-Saxons qui eux vraiment considèrent le litigation comme une matière à part. Moi non, je pense qu'en fait le conseil et le contentieux se nourrissent. et que en fait on raisonne plus en matière de droit. Et quand vous êtes bon dans une matière, vous devez être bon en conseil et en contentieux. Donc voilà, je me suis un peu égaré par rapport à votre question.
Non, mais c'est votre. Je vous demandais s'il y avait eu une évolution dans le fond de votre pratique et sur la typologie de clientèle. Et là, sur le fond, vous dites que vous avez plutôt élargi, on va dire, vos domaines d'intervention parce que, en fait, voilà, votre connaissance des clients fait que,
oui, voilà. Moi, d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé chez Baker, là, j'étais très spécialisé. Après, je pense, quand on est dans un cabinet et qu'on est associé, on peut pas être. Enfin, ou alors on est vraiment sur une niche. Mais si on a une clientèle pour laquelle on essaye de servir dans tous les domaines du droit, des affaires, je parle, hein, eh bien, il faut être capable d'avoir un rapport. Vous avez un chef d'entreprise, il va pas savoir, lui s'en fout de savoir si vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine. Donc il faut être capable de pouvoir lui répondre. Il faut comprendre, il faut pouvoir lire des bilans. Il faut faut avoir une vue d'ensemble de ses besoins, de l'entreprise. Il faut connaître l'entreprise. Et après, encore une fois, on a l'équipe qui est dernière. Donc moi, oui, c'est clair que par rapport à mes débuts, j'ai repris un peu de la hauteur.
Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez sur le fond de votre pratique justement? Plutôt sur le fond des dossiers pour la suite. On a parlé de l'aspect entrepreneurial, de faire monter un troisième étage en termes de construction du cabinet. Et puis, vous, dans votre pratique d'avocat, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez?
Alors, je vais vous faire une confidence. En fait, quand vous me parliez, vous voyez, de la vocation du métier d'avocat, je vous dis que je suis pas né avocat, loin de là. J'adore véritablement la plaidoirie. J'adore le contentieux. J'adore le. Mais faut admettre que quand même que dans ce domaine-là, la matière reine, c'est le pénal. Matière que nous pratiquons pas ou peu au sein du cabinet. Moi, c'est quelque chose qui, à titre personnel, me titille beaucoup. J'ai eu l'opportunité d'avoir un dossier, un gros dossier de correctionnel il y a une dizaine d'années. Mais je me vois bien.
Sur un sujet en droit des affaires?
Non.
Non.
Non, c'était.
Du correctionnel.
C'était dans le domaine des cercles de jeu. Donc, vous voyez que ça n'est pas. Enfin, le cercle de jeu est peut-être une entreprise. Donc, ramener vu dans ce sens-là. Mais non, c'était pas c'était pas en lien avec nos activités. Et là, je vais vous faire une autre confidence. J'ai un dossier d'assises dans une affaire criminelle où je suis pour les parties civiles. Et donc, on est très, très loin de mes domaines, de nos domaines de prédilection. Mais d'un point de vue humain, ça m'attire beaucoup. Et je m'imagine peut-être le jour où je cesserai une activité professionnelle dans le sens de comment je l'exerce aujourd'hui. Peut-être de partir sur cette voie-là. Et ben là, peut-être dans le domaine associatif et plus côté victime que côté avocat de la défense, quand bien même, bien évidemment, il en faut, je suis très respectueux de cela, mais peut-être.
Donc
peut-être.
De vous amuser et d'ouvrir les perspectives et de vous amuser avec le droit pénal.
Oui, parce que là, c'est quand même, il y a une telle humanité là-dedans. Et puis, c'est vrai que c'est. Faut reconnaître que ça, il y a des sensations qui sont quand même tout autres. C'est. Oui, voilà.
Quel est votre principe déontologique préféré?
Le respect. Moi, je dirais tout simplement le respect des confrères, la confraternité. J'y suis très attaché parce que je dis toujours que nous sommes des mandataires. Et parfois, certains confrères, ça peut moi aussi m'arriver, hein, on se pique trop au truc et puis et on a une relation quasi de conflictuelle avec l'avocat adverse dans le sens du différent, hein, pas conflictuel. Et non, je crois qu'il faut rester à notre place. Donc je pense que le respect et donc la confraternité doit permettre cela. C'est-à-dire qu'on peut être très très agressif dans le verbiage, dans la défense des intérêts de son client, mais tout à la fois d'être très respectueux du confrère. Et c'est très agréable d'ailleurs parce que ça crée une relation qui est chouette. C'est-à-dire que on se combat un petit peu comme dans le domaine sportif. On peut effectivement s'affronter sur un terrain et puis après entretenir d'excellentes relations en dehors du terrain. Je crois que c'est ça. Oui, j'aime bien ce côté-là. Après, il y en a d'autres, c'est sûr que le secret, etc. Mais je crois que c'est oui, la confraternité, la relation, ça rejoint en fait pour moi l'importance des relations humaines, tout simplement.
Quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie professionnelle ?
Celle que vous voulez. Ça peut être une joie personnelle aussi.
Les joies personnelles, je les garderai pour moi. Les joies professionnelles, c'est un succès en contentieux lorsque vous avez, là on en a eu un tout récemment, sur un dossier où on gagne, mais on s'y attendait même pas d'ailleurs, et vraiment sur le droit. On s'adresse à des juristes, on comprendra, sur le lien de causalité, sur l'absence de lien de causalité, dans un domaine de responsabilité sans faute, et où donc notre client étant celui dont la responsabilité est recherchée sans faute, le seul argument de défense que nous avions, c'était le lien de causalité, et finalement il m'a semblé que on le développait dans nos écritures, que j'ai plaidé ce dossier et que ça a touché. Et effectivement, le jugement arrive et on gagne là-dessus. Donc c'est une petite joie, mais c'est une joie purement professionnelle, mais intellectuellement forte.
Ben quand même. Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Vous le savez qu'on s'habille de moins en moins, enfin que je dis on s'habille de moins en moins, on met de moins en moins de costumes ou de cravates. Et ben moi je continue à quand je vais alors que normalement la robe est justement faite pour nier toute différence vestimentaire. Ben généralement moi quand je vais plaider, je mets mon costume et je mets même encore une cravate.
Et je mets encore une cravate.
C'est un petit peu, j'allais pas dites passez moi, je pense c'est un peu couillon, mais j'aime bien. Pas systématiquement mais très souvent. Mais en général quoi qu'il en soit le costume.
Merci beaucoup pour cet échange.
Ça fait un plaisir, merci à vous.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !